Europe 1, 14h-15h, Clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. On l'attend depuis maintenant plus d'un an, Covid oblige, sa sortie a été décalée. Mais c'est donc mercredi prochain que sort au cinéma Kaamelott.
Où est Arthur Pendragon?
Un gars pas bien grand, blanc comme un cul.
Ça me dit rien.
Qu'est-ce que vous entendez exactement par « vous êtes de retour »
Des fois que vous redeveniez roi.
Quoi ?
Oui, oui, bah c'est vrai que ça fait envie, quoi. Voilà, maintenant, si vous le sentez pas, vous le sentez pas, hein, ça.
L'occasion pour nous de s'intéresser aux films dans l'univers du médiéval, de Georges Méliès aux visiteurs, en passant bien sûr par la légende du roi Arthur et celle des Monty Python et de leur premier film Sacré Graal. Je vous raconte tout ça dans un instant et c'est le réalisateur de Kaamelott, Alexandre Astier, qui sera notre invité. 14h30, les films de ma vie. Aujourd'hui, on retrouvera, depuis le Festival de Cannes, Virginie Efira, qui a accepté de répondre à notre questionnaire de Proust version cinéma. Alors par exemple, quel est son premier souvenir en salle ?
Mon premier souvenir de cinéma, c'est Mary Poppins, que j'ai vu dans l'école de mon frère. C'est une projection, je devais avoir 6 ans. C'était une impression très forte, comme si on voulait vivre à l'intérieur de ce film-là. Et cette idée qu'on pouvait ouvrir un sac et en sortir un porte-manteau, ça me semblait quand même ouvrir des perspectives tout à fait intéressantes, quoi.
Mary Poppins, c'est pour la suite des souvenirs cinéma de Virginie Efira. Rendez-vous donc dans une demi-heure. Et puis juste après, toujours depuis le Festival de Cannes, j'accueillerai mes collègues critiques, puisqu'ils sont là tout l'été à mes côtés pour débattre des films sortis mercredi dernier. Avec au programme Fast and Furious numéro 9, présenté au cinéma de la plage. Vous verrez que nos héros sont désormais prêts à aller jusque dans l'espace. Nous débattrons aussi de Titan en compétition, nouveau film de Julia Ducournau, Cannes encore avec le nouveau Mia Hansen Love, Bergman Island, que vaut-il ? On vous dira tout. Et puis on débattra de Désigné coupable porté par un incroyable tar, Raïm. Voilà pour le programme de votre Clap, qui démarre donc maintenant avec notre récit consacré à l'univers du médiéval sur grand écran, à l'occasion de la sortie très attendue de Kaamelott.
Europe 1. Le récit.
L'un des premiers films qui se déroule dans l'univers du médiéval, on le doit à Georges Méliès. Encore lui, en 1900, il sort Jeanne d'Arc. Près d'un siècle plus tard, c'est un autre réalisateur français qui en fait le sujet de son film, Luc Besson, avec dans le rôle principal Mila Jovovich.
J'ai un message pour votre roi Henri. Un message de Dieu. Allez-vous-en. Rentrez chez vous, en paix. Si vous ne partez pas tout de suite, vos corps reposeront sous cette prairie. J'attends maintenant votre réponse.
Nous avons perdu Orléans.
Je veux cette fille. Je veux qu'elle soit brûlée.
Écoutez le réalisateur en parler au micro d'Europe 1. Il explique pourquoi un film médiéval nécessite beaucoup de figurants.
C'est vrai que de temps en temps, on était 900, je crois, et des figurants 1700. Donc tout ça en costume, ça fait pas mal. Et donc c'est vrai que c'est un peu lourd et assez fatigant. Et paradoxalement, je pense que le film est sorti très très vite. L'écriture s'est fait vraiment assez facilement et rapidement surtout. Je crois peut-être surtout, je me suis vraiment entouré de gens très talentueux à tous les postes. Et ces gens-là m'ont amené beaucoup, donc ça, je crois, a accéléré toutes les choses.
Il faut dire que le Moyen-Âge, qui a, rappelons-le, duré plus de 1000 ans, est un terreau fertile pour le cinéma. Royaume, esclaves, chevaliers, code d'honneur, torture, on y retrouve tous les ingrédients d'un grand film d'aventure. Mel Gibson, par exemple, l'a bien compris. Il s'est inspiré de l'histoire d'Édouard Ier, héros de l'indépendance écossaise au XIIIe siècle, pour en faire un film historique, Braveheart.
Digne fils de l'Écosse, je suis William Wallace, et que vois-je ? Toute une armée de mes compatriotes, réunis en défiance de la tyrannie. C'est en homme libre que vous êtes venu vous battre. En homme libre que vous êtes. Mais comment garder votre liberté ? Il faut se battre ! Alma Goma !
Le film récoltera 5 Oscars, dont celui de meilleur film et meilleure réalisation. Il permet à Sophie Marceau, qui joue le rôle d'Isabelle de France, de se faire connaître outre-Atlantique. comme elle le racontait au micro d'Europe 1.
Bah, c'est que tu es une jeune princesse française et quand les Américains vous demandent de jouer une princesse française, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux, franchement? Bon, c'est un rôle court. Bon, je partage l'affiche avec Gibson, mais c'est vraiment une petite participation. Et puis l'avenir dira ce que ce film m'aura apporté. Bon, alors c'est un film très lissé, c'est-à-dire que c'est le gentil qui va mourir pour l'honneur et tout. Il est lissé dans sa forme, mais c'est véritablement l'histoire de ce personnage. Il a vraiment fait tout ça.
Au-delà des héros historiques, les réalisateurs puissent également, dans le Moyen-Âge, des légendes celtiques, qui bien souvent, avant d'être adaptées sur grand écran, étaient des écrits populaires qui se racontaient aussi de génération en génération. La plus célèbre d'entre elles, c'est sans doute la légende du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde. On ne compte plus les adaptations au cinéma, comme Lancelot, premier chevalier de la Table, avec Richard Gere dans le rôle du chevalier et le roi Arthur brillamment incarné par le plus célèbre des acteurs écossais, Sean Connery.
Alors, Agradin, que s'est-il passé?
Une embuscade, sire.
Malagan?
Oui, sûrement.
La vie de Lady Guenièvre était en danger?
Toutes nos vies étaient en danger, sire. Ils étaient habilement préparés. Nous avons subi deux assauts. Durant le deuxième
assaut... Vous n'aviez pas prévu un second assaut?
C'est qu'il y a eu tellement de morts durant le premier assaut, sire. Nous ne nous attendions pas à ce qu'un second groupe regarde mourir leurs camarades sans réagir.
Malagan se soucie très peu de perdre ses hommes. Ce qui compte, c'est la victoire.
Sean Connery qu'on avait déjà vu dans un univers médiéval. Je pense bien sûr au film Le Nom de la Rose, réalisé par Jean-Jacques Hano, qui racontait à l'époque comment son film avait cassé l'image de James Bond qui collait à Sean Connery.
Vous savez, il n'y a pas que pour le grand public, parce que moi, j'avais été contacté par son agent et je savais qu'il était intéressé. Et moi, j'ai fait comme le grand public, je me suis dit, oh là là, je ne veux pas parasiter mon Sherlock Holmes médiéval avec, en plus, l'image de Bond. Puis un jour, je me suis dit, quand même, j'ai peut-être tort de ne pas voir Sean Connery. Et je dois dire que je m'en suis beaucoup voulu quand je l'ai vu apparaître. Il a une telle stature, un tel charisme, de l'humour, de la dignité, de l'autorité. Je suis tombé à la renverse et je m'en suis beaucoup voulu d'avoir été ce metteur en scène qui colle des étiquettes aux acteurs.
Alors on a parlé des héros de l'époque médiévale, on a parlé des légendes, mais cet univers fascine aussi les enfants. Entre les mystères, les potions magiques, les valeurs véhiculées notamment par les chevaliers, Disney l'a bien compris et adapte dès les années 60 Merlin l'Enchanteur, l'histoire de Moustique, un enfant qui va devenir le roi Arthur.
Je ne peux pas être roi, Archimède. J'ignore tout à fait comment on dirige un état.
Je t'avais dit de ne pas arracher l'épée de l'enclume.
Je vais m'enfuir. Voilà ce que je vais faire. Ils n'auront qu'à en chercher un autre.
Eh bien, prends la porte de côté, c'est mieux. Et file à l'anglaise.
Enfin, puisque l'on parle de l'univers médiéval à l'occasion de la sortie de Kaamelott, il faut aussi rappeler que cette période de l'histoire a inspiré beaucoup de comédies. Le terreau y est fertile, entre les culottes bouffantes, les troubadours, les damoiselles en détresse. Il y a matière à rire. Les premiers à l'avoir compris, ce sont les Monty Python. Leur long métrage Sacré Graal parodie la quête des chevaliers de la Table Ronde.
La quête du Saint Graal.
Héros !
Héros ! Qui va là ?
C'est le roi Arthur ! Et voici mes loyaux chevaliers de la Table Ronde. À qui appartient ce château ?
C'est le château de mon maître, Guy de Loimard.
Voudriez-vous aller dire à votre maître que nous avons été chargés par Dieu d'accomplir une tâche sacrée ? S'il nous donne de la nourriture et un gîte pour la nuit, il pourra se joindre à mes chevaliers dans notre quête du Saint Graal.
Eh ben, je veux bien le lui demander, mais je crois pas que ça l'intéressera. Hein. Il en a déjà un, vous comprenez.
Quoi ?
Sacré Graal qui sera un carton planétaire. 2 millions d'entrées rien qu'en France. Le film réussit en plus le pari de réconcilier public et critique. Il sera même projeté au Festival de Cannes. Alors en France, beaucoup d'humoristes revendiquent leur filiation au Monty Python. Que ce soit les Robin des Bois, Alexandre Astier, on en reparlera avec lui, ou même Alain Chabat, les Monty Python ont en tout cas réussi à créer un genre nouveau, le médiéval comique, qui va exploser dans les années 90. En 93, par exemple, Mel Brooks sort son film parodique « Sacré Robin des Bois ».
Mirette ! Monsieur Robin, serait-ce vous ?
Oui !
Oh, mais alors vous êtes revenu des croisades ?
Oui !
Et toujours en vie ?
Oui.
Oh, c'était pas le temps.
Mirette, écoute-moi. On vient de saisir le château.
Oh, une chose pareille ne se serait jamais produite si votre père était encore en vie.
Il est décédé. Et maman ?
Elle nous a été enlevée par une pneumonie. Ah, mais c'est vrai, vous étiez en voyage.
Et mes petits frères ?
Ils ont tous succombé à la peste noire.
Médor, mon chien loup ?
Écrasé par une charrette.
Mon poisson rouge ?
Mangé par la chatte.
Ma chatte ?
Elle s'est étouffée en avalant le poisson rouge.
Oh, quelle joie de retrouver la douceur du foyer, hein, monsieur Robin?
Et c'est cette même année que sort en France un film devenu depuis culte. Écoutez, Jacouille.
Jacouille, la fripouille, votre humble serviteur, vous me reconnaissez, quoi?
Je parle bien sûr des Visiteurs, Jacouille interprété par Christian Clavier, Godefroy de Montmirail par Jean Reno.
Jacouille la fripouille, mon escuyer. Il n'est pas très gracieux et accompagnable, mais il est futé et renifle bien les pistes.
Le succès est monumental. 14 millions de spectateurs rien que pour le premier volet et de nombreuses répliques devenues cultes. Jean-Marie Poiré joue sur tous les clichés du Moyen-Âge. La saleté, par exemple.
Vous vous en sortez?
J'ai fini mes ablutions, à toi.
Non, 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 messire. Moi, c'était pas la peine. J'ai pris un bain il y a 2 mois dans la rivière.
J'ai fini mon lavement, tu peux y aller.
C'est trop fouillé.
Arrêtez.
La servitude aussi.
Vous êtes sûr que votre ami ne veut pas se mettre à table? C'est gênant.
Il n'est point noblio et n'a pas de manière pour m'enjailler. Il est déjà heureux de boulotter nos restes. Hein, mon Jacouille? Tu ne veux pas venir à table avec nous?
Oh, non, 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 Seigneur Hubert.
Eh ben, chez moi, tout le monde mange à table. Allez, venez, ça me coupe l'appétit.
Oh, non, 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 que nenni, que nenni.
Obéis, Marot.
Non.
Je te l'ordonne.
Ça sera plus sympa.
Et surtout, Poiré s'amuse de l'opposition entre les époques, car Jacouille et Godefroy se retrouvent catapultés dans les années 90. Écoutez Christian Clavier en parler au micro d'Europe 1.
On est surtout très contents, quoi. On est surtout très contents, parce que ça faisait longtemps qu'un film français n'avait pas fait ça. C'est très satisfaisant de savoir qu'il y a un réservoir pour le cinéma français qui semblait être réservé un peu au cinéma américain. Alors voilà, on renoue avec les grands succès des films français d'il y a 10 ans, et ça fait très plaisir.
Et quelques années plus tard, c'est une série humoristique qui fera le bonheur des téléspectateurs d'M6. Je parle bien sûr de Kaamelott, dont le film sort la semaine prochaine. La série tournait en dérision le roi Arthur, qui galère à accomplir ses missions.
Évidemment qu'il n'est pas mort. Ça fait 10 ans que je vous le dis, gros salsifis.
Mon Dieu, par tous les saints.
Non, 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 commencez pas. Je suis absolument pas roi, il n'y a pas besoin de se lever. Bon, vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde, au cas où quelqu'un approche.
Approche sur le chemin?
Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde.
Et s'il n'y a personne qui approche, on revient.
Non, vous montez la garde.
Il y aurait moyen de réduire la voilure sur la connerie.
Et justement, dans un petit instant, son réalisateur et interprète d'un des rôles principaux, Alexandre Astier, sera avec nous dans Clap pour poursuivre notre réflexion. Et puisqu'on parlait des Visiteurs, bien écoutons la bande originale du film Enae Volare. Vous êtes toujours à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma sur Europe 1.
Amen.
la suite de votre émission cinéma. Je vous rappelle qu'on se retrouve tout l'été pour parler des sorties ciné, parce qu'il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, on parle justement du médiéval à l'occasion de la sortie de Kaamelott mercredi prochain, réalisée par vous-même, Alexandre Astier. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Petite appréhension, parce que ça fait quand même 10 ans que vous le mûrissez, ce projet. Ça sort dans quelques jours. Certains réalisateurs disent que c'est comme un accouchement. Comment vous vivez la chose, vous ?
Ah, j'ai quand même l'impression que j'ai accouché quand je l'ai lâché au montage. Ouais, c'est-à-dire que maintenant, je ne peux plus le toucher, donc j'ai vraiment l'impression qu'il ne m'appartient plus. Donc, je suis en observateur passif, ce qui n'est pas non plus une position si facile que ça.
On va rentrer dans les détails, mais pour juste situer à nos auditeurs qui n'auraient pas vu la série ou qui auraient un petit peu oublié, ce qui était, j'avoue, mon cas, je l'avais vu il y a quelques années, mais voilà, qui auraient un petit peu oublié l'univers Kaamelott, un petit résumé du début pour pouvoir aller voir le film sans être complètement paumé.
Ah, c'est très simple, la série se termine sur Lancelot qui prend le pouvoir, qui règne en tyran sur le royaume de l'Ogre, avec un Arthur, Pendragon, qui est absent et personne ne sait où il est, peut-être mort, depuis 10 ans. Voilà, le film commence exactement à ce moment-là. C'est un petit reboot, un mini-reboot, qui permet à ceux qui ont envie de s'y mettre sur le tard, de raccrocher.
Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 10 ans? Parce que c'est une question bête, mais est-ce que c'est un projet qu'on mûrit pendant 10 ans? Est-ce qu'il y a eu des problèmes pour le faire? Parce que c'est un projet qui coûte cher, j'imagine. Il y a beaucoup de costumes, beaucoup de décors. Qu'est-ce qu'on fait pendant 10 ans avec une fanbase, on va en reparler, mais qui attend ça depuis 10 ans et qui trépigne d'impatience?
Bah déjà, on garde son sang-froid un peu. Ensuite, j'ai fait du théâtre, j'ai fait 2 pièces, j'ai fait 2 Astérix en animation. J'ai pas mal bossé. Et moi, j'écris sur le moment. Je peux pas écrire à l'avance. J'écris selon ce que je suis, selon mon mood du moment. Donc, je n'ai pas pris d'avance, si ce n'est des idées très larges comme ça. Quand ça a été le moment de s'y mettre, je m'y suis mis, mais finalement, c'était assez tard.
Il faut dire aussi que vous faites beaucoup de choses. Vous faites la musique, notamment du film. Ça, c'est important pour vous que ce soit votre œuvre presque de A à Z?
Oui, alors c'est un faux libellé, parce que j'ai quand même des équipes complètes de gens très talentueux qui font les choses. Mais oui, il y a 2-3 trucs que je garde pour moi, notamment les choses qui restent rythmiques, les choses qui concernent la musique des choses, quoi. Voilà, le montage, le garde, la musique et évidemment le texte et tout ça, parce que c'est une espèce de petite signature que je me donne sur le mouvement, quoi. Voilà.
Ça sera une trilogie?
J'espère.
Si je dis pas de bêtises, en tout cas si ça marche, il n'y a pas de raison que ça marche pas. On a un peu l'impression que c'est un mot pompeux, mais que c'est l'œuvre d'une vie, ce Kaamelott pour vous, c'est vrai ou pas?
Je l'ai mis sur, pardonnez-moi la métaphore ferroviaire, mais si c'est un rail, j'en ai toujours un autre où il n'y a pas Kaamelott. Mais j'ai tout de suite su, quand on s'occupe de gestes arthuriennes, de toute façon, vous ne pouvez pas prendre ça un quart d'heure et puis le lâcher, c'est une grande épopée de toute façon, la geste arthurienne. Donc, j'ai un rail sur lequel je fais Kaamelott, je pense que ça me suivra jusqu'au bout. Et puis je me réserve un rail pour faire tout le reste que j'ai envie de faire. Et voilà, mais je sais que ça ne me quittera pas, oui.
Et c'est une chance ou c'est un regret? Parce que parfois, la relation avec son œuvre n'est pas toujours facile. Et se dire que vous avez cette œuvre-là et cette pression-là presque sur toute votre existence à mener, avec tous ces fans qui attendent chaque épisode, chaque BD, chaque... Est-ce que c'est une chance ou est-ce que parfois aussi vous vous dites pas « j'aimerais pouvoir faire autre chose comme n'importe quel réalisateur, n'importe quel comédien sans qu'on m'attende au tournant à chaque fois ?»
Non, parce que je sais pas, en tout cas je suis forte tête avec ce truc-là, c'est-à-dire que j'attends d'avoir envie, je le fais pas avant. Je pense qu'il y a peu d'auteurs qui ont la chance comme ça d'avoir une saga dans les mains, une vraie saga. Je peux raconter la suite, je peux faire un préquel comme je l'avais fait dans la saison 6. Je peux surprendre, je peux être là où on m'attend, où on m'attend pas, tout d'un coup retourner le truc, attendre 10 ans. Enfin, je vois pas comment est-ce que ce serait pas avant tout un grand sujet de bonheur pour quelqu'un qui veut raconter des histoires, qui veut faire rire. Vraiment, c'est avant tout une grande chance, oui, bien sûr.
Et comme George Lucas a revendu la franchise Star Wars, un jour vous revendrez la franchise Kaamelott à Disney ou...
Moi, je pense que ça n'a plus de valeur si c'est pas le papa qui signe. Star Wars, pourtant Dieu sait que j'étais dedans, je suis obligé de reconnaître le très grand talent des gens qui se sont occupés de la reprise. Je suis obligé aussi de reconnaître que la vive impression que j'ai que ça ne me concerne plus tellement.
Oui, c'est ça. C'est tellement différent tout en étant dans la continuité que...
Oui, puis c'est peut-être même... J'ai pas envie de voir des films de fans, aussi talentueux soient-ils. J'ai envie de voir le film du mec qui signe.
Quelles sont vos inspirations avant de vous recevoir? On parlait beaucoup d'univers médiéval au cinéma, des Monty Python. Est-ce que c'est des... Je suis complètement à côté de la plaque si je dis que quelque part ça vous a un peu inspiré ou pas?
Alors, ce qui m'a inspiré chez les Monty Python, c'est pas forcément le pied qu'ils ont mis dans la geste arthurienne. En revanche, c'est le sérieux parfaitement british avec lequel ils abordent la comédie. Je fais partie des gens qui aiment bien la comédie faite sérieusement. La comédie qui peut même accueillir du drame ou de la tragédie de temps en temps. Je pense que ça peut tout contenir. Je pense que c'est un super exemple, parce que Sacré Graal ou La vie de Brian sont des films qui ont toujours une belle musique, qui ont une facture la mieux qu'on peut avec le budget de l'époque. Sacré Graal, on sent qu'il n'y a pas toujours... Bon, quand ils mettent les noix de coco à la place des chevaux...
Il n'y a pas encore le budget, mais...
Ça, je pense que c'est une histoire de budget, mais il y a la volonté, une très belle musique, encore une fois, un beau score, et puis on installe sans arrêt des situations qui sont avant tout graves, avant qu'elles se mettent à déconner. Et je suis très sensible, et je prends... très modestement exemple sur cette façon de faire la comédie, oui.
Et aussi sur la façon d'écrire et de écrire très finement. Vous avez fait tout un tas d'affiches teasing qui sont parues sur les réseaux sociaux, etc., où il y a quelques phrases mises en exergue, et on sent à chaque fois, et on le sent aussi dans les dialogues du film, que c'est très écrit avec beaucoup de ressorts de la langue française. Ça aussi, c'est une spécificité de Kaamelott et de ce type de comédie-là.
J'ai toujours dans ce que je raconte, mes films, mes spectacles, j'ai toujours envie d'utiliser les langues françaises, parce que j'utilise aussi bien un parler de la rue, mais par exemple, je suis très sensible au parler vaudeville, au parler labichien, surtout pour les jeunes gens, les jeunes acteurs qui viennent. J'adore leur faire jouer des personnages équivalents à la fameuse fille à marier ou au fameux prétendant des labiches, parce que je trouve que ils se vouvoient beaucoup. C'est pour ça que dans Kaamelott, les gens se vouvoient, parce que je recherche ça. Donc, ce qui compte, effectivement, c'est la langue, les langues, et surtout de les confier à des acteurs, de leur faire plaisir avec ça, qu'ils aient envie de venir jouer cette langue-là.
Les acteurs, il y a à peu près tout le cinéma français, pas que d'ailleurs, puisqu'il y a Sting, mais ça veut dire que quand Alexandre Astier appelle un acteur ou son agent, c'est oui d'office, parce qu'on a l'impression que tous ceux que vous avez voulu, vous les avez eus.
C'est même un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que moi, quand j'appelle un comédien, je ne lui donne pas de texte puisqu'il n'existe pas.
Mais c'est ça, vous écrivez pour...
Voilà, donc du coup, je suis obligé de lui dire, est-ce que tu voudrais bien venir jouer avec moi? Mais si jamais il pose la question pour faire quoi, je suis quand même bien embêté, parce que j'en sais rien du tout. Il faut d'abord qu'il dise oui, et puis après, j'écris selon ce qui m'amène, selon ce que j'ai envie de lui faire faire, c'est même l'acteur qui va m'éclairer, pas sur l'histoire que je raconte peut-être, mais en tout cas sur un personnage qui pourrait comme ça arriver, parce que c'est lui, quoi. Donc j'ai besoin de vraiment obtenir la confiance aveugle de mes camarades comédiens.
Il y aura donc, a priori, un trilogie. Comment vous expliquez, je ne veux pas vous porter la poisse, mais le succès de l'univers Kaamelott au sens large. Est-ce que c'est parce qu'il n'existait pas d'équivalent dans le cinéma français? Est-ce que c'est parce que voilà, c'est des univers qui fascinent? Comment vous, j'imagine que vous avez eu le temps d'y réfléchir, je ne sais pas si vous avez une réponse, mais en tout cas vous avez eu le temps d'y réfléchir. Ces fans qui sont sur les réseaux sociaux absolument fous dès que vous mettez la moindre image, le moindre bout d'armure, le moindre truc. Comment on explique ça?
C'est très difficile d'analyser les succès, comme les échecs d'ailleurs, c'est compliqué. J'ai l'impression, alors après c'est une idée que je lance en l'air, j'ai l'impression que ça se sent que c'est libre. Il n'y a aucun formatage là-dedans. On ne me demande rien, je ne fais rien lire, je fais exactement tout ce que je veux. Je ne dis pas que c'est toujours bien, je dis qu'en tout cas, dans un monde de temps en temps, un petit peu où les choses sont très surveillées, ou en tout cas relues, corrigées, machin, etc. Moi, Kaamelott, ce n'est pas corrigé. C'est vraiment pour les comédiens, avant tout, et il est possible... que cette liberté, cet amusement, alors cet amusement sérieux, mais fait cet amusement quand même, se sente. Et peut-être que les gens qui sont accros à Kaamelott ont envie de voir s'amuser des acteurs, parce que finalement, c'est ça qu'on a envie de voir.
Bon, merci beaucoup en tout cas, Alexandre Astier, d'avoir fait un petit détour par le studio de Clap. Et donc, je le redis, Kaamelott, enfin repoussé, avec notamment le Covid, etc., mais qui enfin sort mercredi prochain, et ça fait partie de ces belles sorties de l'été qui, on l'espère, vont doper la fréquentation dans nos salles. Merci beaucoup, en tout cas.
Merci beaucoup.
Et nous, on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de votre émission cinéma. Ce sera le questionnaire Les films de ma vie. Et aujourd'hui, c'est Virginie Efira qui a accepté de nous confier ses plus grands souvenirs de cinéma. On la retrouve dans un tout petit instant.
Europe 1.
Et on se retrouve pour la suite de Clap, votre émission cinéma. On va ouvrir dans un instant Les films de ma vie, notre séquence habituelle, avec aujourd'hui Virginie Efira. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être là à l'occasion de la sortie en salle présentée ici à Cannes de Benedetta, signé Paul Verhoeven. On a déjà parlé dans l'émission, mais je voulais qu'on en redise un mot parce que moi, ce qui m'a marqué avec ce film, c'est déjà, il faut dire qu'il a été fini il y a 3 ans et qu'il est terriblement d'actualité. C'est assez fou, en fait. C'est-à-dire qu'il parle... Bon, on va parler, il y a la peste, donc évidemment une épidémie, il y a la question des fanatismes, il y a du confinement. C'est fou de se dire qu'il peut être autant dans l'actualité 3 ans après, avec tout ce qu'on a vécu ces 3 dernières années.
Oui, c'est pour ça que pour moi, Verhoeven, et j'ai pensé ça, je crois, j'ai 16-17 ans, c'est vraiment un génie, quoi. parce qu'il arrive à percevoir ce genre de choses. Si on pense à Basic Instinct, par exemple, il y avait quelque chose de déjà, alors qu'on est bien avant Me Too et Weinstein, déjà propre à cette chose-là, quoi.
En même fait, dans aussi. Elle, d'ailleurs.
Ou même dans Elle, bien sûr, bien sûr.
J'ai vu Jésus. Il est venu à moi.
Jésus-Christ a choisi notre bienheureuse sœur, Benedetta.
Bartholoméa, a-t-elle fait quelque chose qui vous est fâché? Non. Avez-vous de l'affection pour elle?
Si cette sœur est coupable du blasphème dont vous l'accusez, elle est rebutée.
Peut-être a-t-il mis Benedetta en transe? Ou bien Dieu nous a envoyé une folle qui débite des sottises pour servir ses desseins?
Bon, Benedetta, en tout cas, c'est découvrir en salle et on saura ce soir, à l'occasion du palmarès de Cannes, si le film... Et primé, suspense, en tout cas on suivra ça en direct sur Europe 1, hein, parce qu'on fait une grande soirée spéciale avec nos amis de Canal+. Est-ce que vous êtes prête maintenant pour notre questionnaire Les Films de ma vie?
Ben, on va dire oui.
Eh ben, on va dire oui, on va y aller.
Okay.
Votre premier souvenir de cinéma, Virginie Efira?
Mon premier souvenir de cinéma, c'est Mary Poppins, que j'ai vu dans l'école de mon frère. C'est une projection, je devais avoir 6 ans. C'était une impression très forte, comme si on voulait vivre à l'intérieur de ce film-là. Et cette idée qu'on pouvait ouvrir un sac et en sortir un porte-manteau, ça me semblait quand même ouvrir des perspectives tout à fait intéressantes, quoi.
Bon, maintenant, installons-nous. J'ai toujours dit qu'un chapeau doit être accroché à une patère.
Mais il n'y avait rien dans le sac.
Ne jamais juger les choses d'après leur apparence. Même les sacs de voyage, je m'en suis toujours bien trouvée.
Il faudra la surveiller sérieusement. C'est une drôle de nurse. Elle est merveilleuse.
J'ai une question dans le questionnaire. C'est le film dans lequel vous aimeriez vivre? Ce serait le même? Ce serait Mary Poppins?
Oh non, maintenant, si je devais vivre dans un film... Il y a quantité de films...
Pas Benedetta, j'espère?
Non, alors là, je vais penser aux premiers films de Woody Allen. Il y a quelque chose... Enfin, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Parce qu'en fait, il y a des réalisateurs dont on a envie de retrouver une sorte d'univers. On sait qu'on va retrouver un peu... Et c'est-à-dire... je pense que je vais être assez fascinée quand j'étais en Belgique par ces gens qui arrivent facilement à mettre... Freud, la psychanalyse, eux-mêmes, ce qu'ils sont au devant, tout ça dans les rues de New York avec la musique jazz. Enfin, je sais pas, oui, il y avait un truc où, je veux être avec eux, je vais aller dîner avec Diane Keaton. Bon, peut-être que ce serait ça, mais il y en a quantité d'autres, en fait. Hein.
Nous sommes allés à la galerie Castelli, on a vu l'exposition de photos. C'est incroyable, absolument incroyable.
Oui, c'est excellent. Vraiment, vous avez été accrochés?
Vous les avez vus?
Ah oui, je vous avoue que j'ai trouvé ça très démarqué. Ça m'a paru sortir en droite ligne de Diane Arbus, mais sans en avoir l'humour.
Ah bon? Oh, bien sûr, ça m'a pas emballé de la même façon que le plexiglas. La sculpture, ça, il faut bien admettre que moi, ça...
Ah bon, vous avez aimé le plexiglas?
Ah bon, le plexiglas non plus, ça ne...
Non, je...
Avouez que c'est vachement supérieur à leur cube d'acier. Vous l'avez vu, ce
oui,
cube-là? J'ai trouvé le cube...
Ah non, non, moi j'ai trouvé ça génial. Absolument génial.
Ah génial, le cube, c'est...
Oui.
C'est...
À mes yeux, ça m'est apparu très texturel. Je ne sais pas si vous me suivez, c'était parfaitement intégré. Ça dégageait également une merveilleuse forme de négativité potentielle. Le reste de leur expo, c'est de la merde, pas autre chose.
Votre séance de cinéma la plus dingue?
La plus dingue, mon Dieu. Je me rappelle, je ne sais pas... Alors, le souvenir que j'ai, c'est une toute petite salle de cinéma, trop cool. C'est peut-être au début, quand j'avais à Paris, qu'on vous invitait dans des trucs où tu peux voir des films avec des gens qui fument en même temps, etc. Et c'était Piranha 3D d'Alexandre Aja, où il y a quand même à un moment un pénis qui coule dans l'eau, sectionné par un piranha qu'on voit en 3D. C'était quand même surprenant, cette affaire. Mais j'ai pas vu l'offre de Gaspard Noé, où il paraît qu'il y a aussi des choses en 3D.
Oui,
tout à fait dingue, mais je l'ai pas vu.
On dirait que ce corps trempe dans l'eau depuis des semaines.
Cette variété de piranha a disparu il y a de cela 2 millions d'années. Le piranha chasse en meute. La première morsure fait couler le sang. Et le sang attire la meute.
Est-ce qu'il y a un film que vous aimez mais que vous avez honte d'avouer?
Un film que j'aime et que j'ai honte d'avouer, oui, certainement. Alors, il y a le truc évident, mais en fait, j'ai pas du tout honte de ça. Mais il y a un film. Mais en plus, la dernière fois, je l'ai dit avec vraiment beaucoup de sérieux. Je crois que vraiment, Dirty Dancing est un très, très, très grand film.
On ne laisse pas bébé dans un coin. Suis-moi.
Mais je pense qu'en fait, il est fondamental dans la construction de d'adolescente à femme, de cet endroit de mystère, de qu'est-ce que la féminité, qu'est-ce que la sexualité. Il y avait quelque chose dans ce film-là, sur le rapport à l'eau, sur le rapport... Enfin, je sais pas, moi, donc j'ai, quand je l'ai revu, là, je trouve ça merveilleux.
Désolé de vous interrompre, les copains. C'est moi qui ai toujours fait la dernière danse de la saison. Mais un petit connard me l'a interdit. Je vais vous montrer ce que c'est que de danser avec une partenaire sublime. Et c'est pas seulement une danseuse extraordinaire. C'est aussi un être humain qui m'a appris qu'on peut défendre quelqu'un qu'on aime, quelles que soient les circonstances. Quelqu'un qui m'a appris à découvrir celui que j'étais vraiment. Mademoiselle Frédéric Hausmann. Now I had
the time of my life. Je vois bien qu'on ne peut pas dire ça, je veux dire qu'on ne le mettrait pas au panthéon des 15 meilleurs films à côté de Citizen Kane, je sais bien, mais peut-être que je le mettrais quand même.
Le film que vous conseilleriez à votre meilleur ami ?
Ça dépend qui est mon meilleur ami, ce qu'il a vu, ce qu'il n'a pas vu. Il y a un film que j'aime très fort, qui est spécial, et c'est Mauvais sang de Carax. Carax qui est aussi en compétition, ouais. Là. Donc
face
j'aime.
À vous
c'est pas trop comme ça que je le vois.
Annette.
Mais moi, je suis dingue de ce qu'il fait, ce qu'il propose. Et Mauvais sang est peut-être un film qui me touche intimement, très, très, très profondément. Donc si quelqu'un ne l'avait pas vu, je le montrerai certainement. Oui.
Là aussi, pareil, partout. Suicide. 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 Suicide.
C'est impossible. Jean ne s'est pas tué. C'est elle. C'est l'Américaine. Un de ses hommes de main. Boris ou un autre. Jean a été poussé.
Marc, il y a des témoins.
Non, les gens voient rien du tout.
Jean était quelqu'un de mélancolique.
C'est vivable.
De plus en plus mélancolique.
Non, Jean tenait le coup.
Depuis la mort de Valérie.
C'est elle. C'est l'Américaine. C'est pour ça qu'elle a fait le voyage. Un avertissement. C'est...
La mort. C'est pas toujours si simple.
C'est aussi simple que ça.
Et à votre pire ennemi, vous lui conseilleriez quoi ?
Qu'est-ce que je pourrais conseiller à mon pire ennemi ? Merde.
Vous êtes trop gentil, ça vous vient pas.
Non, je suis pas si gentil que ça. Attends, imaginons qu'on soit pas en train d'être écouté. Merde, je l'ai pas. Il faudrait que je trouve un film un peu pensum qui se prenne très au sérieux, qui va là et on se sent obligé de regarder, mais tout est sentencieux, machin, appuyé, conscient de lui-même. Tu vois, non, mais soit je suis très hypocrite, soit effectivement je suis très bien élevée. Je n'ai clairement même pas un nom, j'ai même pas une censure qui se passe dans ma tête.
Trop gentil. Bon, pour finir, la bande originale qui a le plus marqué votre vie, Virginie Fira.
Le film qui m'a...
La bande originale.
Ah, la bande originale. Ah, ben, il y a un film que j'adorais quand j'étais plus jeune et j'ai retrouvé le CD, hein, parce que je suis quand même quelqu'un qui achète des CD.
Ça se respecte.
Voilà. Et c'était la bande originale des uns et des autres de Claude Lelouch. J'aime énormément.
Énormément. Vous l'avez
écouté en CD. Oui.
Pas de jugement.
Moi aussi, je suis restée d'une grande jeunesse. Je suis vraiment à la pointe. Je suis quelqu'un de branché, j'ai envie de vous dire. Les uns et les autres.
Un jour où nous sommes-tu?
Merci beaucoup Virginie Fira d'avoir joué le jeu. Et donc, j'encourage nos auditeurs à aller découvrir Benedetta qui est en salle. Et puis peut-être au palmarès ce soir, donc il vaut mieux l'avoir vu avant, comme ça dès demain vous pourrez dire je l'ai vu, c'est au palmarès, ça fait
oui chic. Mais même s'il a rien, faut le voir quand même. C'est un film qui ne ressemble à aucun autre, qui est, c'est dément quoi quand même. On est dans une époque où parfois les choses sont un peu uniformes et tout ça, là c'est quelque, c'est tellement quelque chose en soi.
Merci beaucoup en tout cas.
Merci à vous.
Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
Et on se retrouve depuis la Croisette au Festival de Cannes pour la suite de votre émission cinéma. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on a rendez-vous ce soir dès 19h15 pour suivre ensemble le palmarès de ce 74e festival en partenariat avec Canal+. On va vous décortiquer justement ce palmarès en temps réel. On entendra bien sûr la réaction des heureux primés. Fabrice Leclerc sera là. Mais avant d'aller enfiler son smoking, il est déjà avec nous pour débattre des films sortis en salle mercredi dernier. Bonjour Fabrice.
Bonjour Mathieu.
Et Marilyn Letertre face à lui aujourd'hui de Madame Figaro. Bonjour Marilyn.
Bonjour Mathieu, bonjour Fabrice.
Alors, bonjour, on va parler de films présentés pour la majorité ici à Cannes qui sont sortis en salle. Donc vous pouvez aller voir ou pas, d'ailleurs vous ferez ce que vous voudrez, on va vous dire ce qu'on en pense. Au programme, le blockbuster Fast and Furious numéro 9, Désigné coupable avec Tara Heim et Jodie Foster, Bergman Island signé Mia Hansen-Love et Titan, nouveau long-métrage de Julia Ducournau. Ces deux derniers seront même peut-être, qui sait, au palmarès ce soir. Mais commençons donc par le seul film qui n'a pas été présenté à Cannes, Désigné coupable, avec Taha Rahim, membre du jury ici, et Jodie Foster, qui a quand même reçu une palme d'honneur ici, donc c'est tout comme. On écoute un extrait.
Le public vous surnomme l'avocat terroriste. Que répondez-vous à ça ?
Ils sont venus me kidnapper chez moi. Ils m'ont amené ici avec un sac sur la tête et des chaînes autour de mon corps.
Mohamedou Ouslahi, le Mauritanien détenu à Guantanamo. Il a recruté les types qui ont envoyé l'avion de votre ami dans la tour sud.
On va réclamer la peine de mort, mais si on omet un petit détail, il sera libéré.
Le gouvernement américain retient 700 prisonniers à Guantanamo. Depuis quand on enferme les gens sans leur accorder de procès dans ce pays ?
Voilà, film adapté du livre de Mohamedou Ouslahi, dans lequel il raconte son histoire. Un Mauritanien arrêté par le gouvernement américain, accusé de terrorisme, sans que l'on comprenne très bien pourquoi. D'ailleurs, il a été détenu pendant de longues années dans la prison de Guantanamo, dans les conditions qu'on a découvertes par la suite, dans une cage, il faut appeler un chat à chat, sous le cagnard, torturé régulièrement, etc., etc. Il est donc joué par Taha Rahim, et heureusement pour lui, parce qu'ils n'ont pas tous eu cette chance-là, il va être défendu par une avocate, incarnée par Jodie Foster, qui va mettre à jour une conspiration impressionnante. Film coup de poing, comme l'on dit, en tout cas assez marquant. Marilyn, Désigné coupable.
J'ai trouvé le film très très bien. Après, les sentiers sont un peu balisés, on a un petit peu compris comment et où ça va aller, mais Taha Rahim est vraiment formidable. C'est vrai qu'il a été nommé aux Golden Globes, bon, on l'attendait aux Oscars finalement pas, mais ça aurait pas été impossible. Il fait une grosse performance, c'est un rôle à performance, parce qu'effectivement il y a des scènes de torture, je crois qu'il les a vécues plutôt à fond si j'ai bien compris. Il est formidable dans le film, et c'est vrai que c'est face à face avec Jodie Foster sont sans doute la plus grosse réussite du film. Après, le sujet est évidemment intéressant, puisqu'on nous explique combien en fait les États-Unis avaient oublié qu'il existait une justice et que potentiellement ça pouvait être pas mal de la respecter.
Sous prétexte de lutte contre le terrorisme.
Exactement, qu'ils ont évidemment fait fi de tous les droits de l'homme et du respect de la dignité humaine. Voilà, donc c'est très intéressant effectivement. Après, la mise en scène n'est pas dingo, voilà, et il y a des seconds rôles qui, à mon sens, ne servent pas à grand chose. Je pense à Shailene Woodley ou Benedict Cumberbatch qui, franchement, n'ont pas grand-chose à jouer. Mais une fois ces petits bémols dire, c'est quand même un très, très bon film qu'il faut aller voir.
Fabrice Leclerc, Désigné coupable.
Je suis tout à fait d'accord. C'est un film qui coche un peu toutes les cases du déjà-vu. Du déjà-vu bien ou du déjà-vu moins bien, mais du déjà-vu. Et je trouve que le film s'en sort plutôt pas mal. Alors moi, je vous avoue, oui, cette histoire est absolument effarante, mais malheureusement, on l'a déjà évoquée, on en a souvent parlé, il y a eu beaucoup d'articles sur ce cas-là notamment. Moi, ce que je retiens de ce film, et c'est marrant parce que j'y ai repensé en début de festival quand je les ai vus tous les deux, c'est ce duo, c'est Taha Rahim et Jodie Foster, et je crois, moi, que sans eux deux, le film a beaucoup moins d'intérêt.
Taha
Rahim est absolument extraordinaire parce que c'est un acteur de composition. Il le montre assez souvent. Et puis Jodie Foster qui est juste Jodie Foster, et c'est juste qu'on lui demande, c'est d'être Jodie Foster. Non, vraiment, pour ces deux-là, c'est le seul intérêt du film, et c'est le grand intérêt du film, parce qu'il en fait un très bon film.
Désigné coupable, donc, qui est en salle depuis mercredi dernier. On va se plonger maintenant dans la compétition avec Bergman Island, réalisé par la Française Mia Hansen-Love, en compétition ici à Cannes. avec notamment Tim Ross et Vicky Cripps.
So you know this island? It's kind of special, right?
It's the island of the director you and mommy like a lot.
Alors Tim Ross et Vicky Cripps sont un couple de cinéastes, lui plutôt spécialisé dans l'épouvante, elle dans les films plus sages, et ils s'installent, le temps d'un été, à Faro, petite île suédoise, très jolie, où a vécu le grand cinéaste Ingmar Bergman. Pour trouver l'inspiration, Madame va faire une sorte de pèlerinage. D'ailleurs, on apprend qu'il existe un safari sur place qui vous emmène sur tous les lieux emblématiques du cinéaste, de son bureau à ses lieux de tournage. Elle va donc visiter tout ça et écrire au fur et à mesure son film que l'on voit en parallèle se dérouler à l'écran. Vous savez, ce bon vieux procédé du film dans le film. C'est doux, il y a une belle mise en abîme. Après, moi, je dois reconnaître qu'il ne m'en reste pas énormément de choses. Fabrice Leclerc.
Ce bon vieux procédé du film dans le film, je crois que vous avez eu la formule à peu près la meilleure. Il y a plein de belles intentions dans ce film-là. Bergman, la vie d'un couple, des cinéastes qu'on ne voit pas si souvent au cinéma, de cinéastes en train de travailler. Après, moi, je vous avoue, quand le film dans le film commence dans le film, voilà,
vous sortez du film.
Non, c'est pas que je sors du film, c'est que je n'arrive pas à y rentrer parce que c'est tellement gros, c'est tellement téléphoné. On voit tellement la trame narrative qui va monter. Enfin, voilà, plein de bonnes idées et un scénario qui est un peu flemmard. Voilà, pas assez bossé, en tout cas, trop simple à mon goût. Tim Ross est très très bien dans le film.
Voilà, c'est déjà bien.
Petit film quand même, et première fois que je vais vous le dire, peut-être pas la dernière, mais qu'est-ce que ça fait à Cannes?
Bon, hein, Marilyn Lothaire.
C'est une question, Marilyn.
Moi, je suis pas d'accord.
Bergman Island, allez-y.
Ah. Oui, oui. Moi, je lui trouve beaucoup, beaucoup de charme à ce film. Ça a marché. J'ai trouvé que c'était une balade plutôt douce sur l'île de Faro et dans le cinéma de Bergman, même si c'est plus une toile de fond, voilà, que les gens qui sont à fond.
Oui, il n'y a pas besoin de connaître Bergman
non,
par cœur.
Absolument. Je trouve, alors, je suis un peu étonnée que Fabrice parle de Tim Ross, parce que pour moi, c'est vraiment un second rôle dans le film. C'est Vicky Cripps que moi, je retiens dans le rôle.
Désolée.
Je trouve absolument excellente, comme elle peut l'être dans l'autre film qui va m'échapper, mais dans lequel elle est à Cannes, tout de suite.
Vous voyez là, dans le film de Mathieu Madry, qui s'appelle « Serre-moi fort », et où elle est pour le coup beaucoup mieux.
Mais c'est une grande actrice. Et moi, je trouve, en fait, ce qui m'intéresse, et c'est ce que Fabrice évoquait rapidement, c'est effectivement voir les cinéastes au travail. En fait, quand elle nous montre comment se nourrit l'art, comment la vie nourrit l'art, comment l'art nourrit la vie des créateurs. Voilà. Et moi,
Marilyn,
ça, je trouve
c'est qu'une
ça
proposition. La proposition n'est pas entérinée dans le film.
Mais je ne suis pas d'accord.
Bon,
mais les spectateurs se feront eux-mêmes leur avis.
Le mieux,
mais moi, je trouve ça très doux et très joli.
Le mieux, c'est d'aller découvrir en salle Bergman Island et peut-être d'ailleurs qu'il sera au palmarès ce soir. Face à Mia Hansen-Love, une autre Française. On en vient donc à Titane. C'est le nouveau film de Julia Ducournau. La réalisatrice de Grave, déjà présentée sur La Croisette il y a 4 ans, mais à la Semaine de la Critique, cette fois, elle est carrément en lice pour la Palme d'Or. Alors, on est dans le pur cinéma de genre, qui se réclame d'ailleurs de David Cronenberg, interdit aux moins de 16 ans, le film, je le précise tout de suite. Une enfant est victime d'un accident de la route, c'est le début, ce qui va lui laisser une grosse cicatrice sur le crâne, ainsi qu'une plaque en titane qui provoque chez elle une attirance pour ce métal. Elle fait donc l'amour avec une voiture, tombe enceinte de cette voiture, oui, tout en tuant des gens. On ne sait pas très bien pourquoi. Je le fais sérieusement parce que c'est un film de genre.
Mais là, Marilyn est déjà morte de rire.
Sauf qu'elle va ensuite atterrir, cet enfant, dans une caserne de pompiers dirigée par Vincent Lindon, qui lui-même a perdu son fils 10 ans plus tôt et qui croit l'avoir retrouvé. Je vais m'arrêter là pour ne pas vous spoiler. Je dois dire que pour ma part, j'aime plutôt la première moitié du film. Quand on arrive dans la caserne, je me perds un petit peu.
Vous n'aimez pas les pompiers, c'est pour ça.
Marilyn Lothaire, Titane.
Ah, moi, je me perds très vite. Moi, je n'attends pas la deuxième moitié. Personnellement, elle me perd quand elle fait l'amour avec sa voiture.
Oui, mais pourquoi pas?
Pourquoi pas? Mais en fait, grosse déception. J'avais beaucoup aimé Grave. C'était la promesse d'une cinéaste qui, pour le coup, là, pour moi, ne transforme pas l'essai du tout. Je trouve qu'il y a beaucoup d'esbroufe, en fait. C'est l'effet pour l'effet, c'est la provoque pour la provoque. C'est le sang pour le sang. Alors oui, il y a soi-disant un discours sur le corps de la femme, toutes les violences qu'il subit. Pardon, mais c'est d'une lourdeur dans le film. C'est vraiment... Alors Lindon, je ne sais pas ce qu'il vient faire là. Je ne comprends pas. Il est en roue libre. Hein. Ah là, il se lâche. Il se lâche, il est content. Il se dit, tiens, je me fais un petit film de genre là. J'avais jamais trop fait, je crois.
On comprend pourquoi, d'ailleurs.
J'y vais à fond, je le tente. Mmh. Bon, c'est un peu raté. Donc, le film est certes interdit aux moins de 16 ans, mais j'ai envie de vous dire, si vous avez 30, 40 ou 50, vous pouvez vous l'épargner aussi.
Fabrice, Titane, sauvez-le-moi un petit peu.
Écoutez, on a dit à Julia Ducorneau un jour qu'elle était brillante et intelligente, et depuis, elle le croit.
Ce qui est vrai.
Oui, ce qui est vrai, mais le problème, c'est qu'elle le croit. Et moi, quand une jeune réalisatrice aussi talentueuse qu'elle, qui a fait Grave, qui est sûrement un des meilleurs films de genre de ces dernières années en France, et Dieu sait si on en voit de plus en plus, mais non, excusez-moi, elle se prend pour David Cronenberg. Elle ne l'est pas. Il ne faut pas se prendre pour David Cronenberg.
Absolument. Il y en a qu'un et il le fait très bien.
Quand on a son âge, le film est totalement ridicule, totalement d'accord avec Marilyn. Je trouve que Vincent Lindon est un miscasting absolument total. Oui. Et moi, je trouve qu'il erre dans ce film comme le spectateur erre dans ce film. Voilà, à la rigueur, moi, la scène d'amour avec la voiture, c'est le seul moment
oui,
où...
Oui, moi, je trouve qu'elle
ça
a une
t'a forme... fait marrer, quoi.
Non, elle a une forme de poésie. Elle a une forme de poésie.
De poésie.
Oui, non, mais
c'est... Ah, mais j'avais pas vu, pardon.
C'est poétique et tellement énorme qu'il y a un moment, mais pourquoi pas. Mais tout le reste, c'est pavé de pensif, c'est terrible, terrible.
Bon, Titane de Julia Ducournau, méfiez-vous, parce que si ça se trouve, elle sera au palmarès ce soir, les amis. Et là, je vous rappellerai l'un et l'autre...
C'est pas parce qu'on avait pris que c'est un bon film.
C'est vrai.
Bon. Je vous redirai ce que je viens de vous dire.
En attendant, c'est en salle, tout comme Bergman Island, c'est les deux films de la compétition. Donc, allez-y. Et je voulais aussi qu'on parle, parce que ça a été présenté au cinéma de la plage, ça a créé l'événement ici, Fast and Furious numéro 9 déjà, qui a été projeté, donc je crois que c'était lundi soir dernier, devant des centaines de personnes qui ont applaudi, qui ont bien rigolé devant toutes ces voitures. On écoute un extrait.
Vous voyez pas le nombre de missions de malades qu'on a remplies ? On a bousillé des avions, des trains, des tanks. Je parlerai même pas du sous-marin. Et maintenant, on fait voler des caisses ?
Ça faisait un bail, Tom. Petit frère. Tu dis toujours qu'il faut pas lâcher sa famille. Mais moi, tu m'as lâché. J'ai passé ma vie entière dans ton ombre. Maintenant, tu vas passer le reste de ta vie dans la mienne.
Bon, la bande-annonce en VF, ça fait mal aux oreilles, mais c'est donc l'histoire de Tom...
Le film aussi.
Tom Toretto, c'est Vin Diesel, qui mène des jours plus ou moins tranquilles, retiré dans sa ferme où il vit avec sa femme, Letty, son enfant, Brian... Alors, surarmé quand même, on voit bien qu'il n'est pas très serein, et il a raison parce qu'il va découvrir que son frère, Dom, désavoué par la famille, est en train de monter un complot mondial. Va évidemment falloir l'empêcher de tous nous éradiquer. Je vous donne une information supplémentaire. Dans ce 9e opus, nos valeureux guerriers vont carrément dans l'espace, en voiture. Voilà, on en est au 9e quand même, il faut renouveler. Pour le reste... On en a pour son argent, Fabrice Leclerc.
Bah écoutez, on faisait l'amour avec la voiture dans le film précédent. Bah là, on ne fait pas l'amour avec la voiture, mais on aurait peut-être un peu quand même envie, je crois, de faire l'amour avec la voiture. Non, moi, j'ai toujours aimé la saga Fast and Furious. Je m'intéresse autant en voiture qu'à la couture à deux aiguilles. Pourquoi ? Parce que c'était du cinéma de base. Voilà, c'était de la grande aventure, du blockbuster. C'est assez simple, assez passionnant, il faut le dire. Moi, j'ai trouvé certains épisodes très, très réussis. Mais là encore, ils se prennent au sérieux. Alors, on part vous savez, dans le héros qui devient extrêmement sombre avec des flashbacks de son enfance.
Parce qu'il a des failles.
Il
a du trauma avec son frère. Mmh. Et alors là. Et ensuite, comme il faut bien faire un peu, comme vous savez, Moonraker à l'époque de 007, on va dans l'espace. Voilà.
Ben oui.
Donc, il y a une voiture qui va dans l'espace. Ouais.
Mais qui a un petit côté rétro qui n'est pas désagréable, cette voiture.
Voilà. Alors, moi, je dis à un moment, et ça, je le sais, parce que j'ai quand même une voiture, il faut faire évident. C'est tout.
Quant à Marilyn, elle a séché la séance, comme ça.
Mais j'avais vu assez de voitures avec Titane, je crois.
Elle n'avait pas son permis.
Bon, eh oui. Fast and Furious numéro 9. Vous l'avez compris, on a aussi parlé de Titane, de Bergman Island et de Désigné coupable. Le mieux, encore une fois, c'est quand même d'aller au cinéma vous faire votre avis. Marilyn Letertre, merci beaucoup. Madame Figaro, toujours.
Merci.
Fabrice Leclerc, vous restez là parce qu'en fait, on se retrouve dans quelques heures.
Je
vous
vais allez juste
mettre voilà, un petit nœud papillon parce que ce soir, les amis, clap spécial, 19h15, 20h30. On va vous faire vivre en direct la cérémonie de clôture de ce palmarès en partenariat avec Canal+. Donc, on entendra les remettants, on entendra les réactions déprimées et on les commentera en direct. Ça sera l'occasion de prendre un petit papier, de noter s'il faut aller voir ou non tous les films qui seront au palmarès. Clap, émission préparée par Marjorie Adelson, réalisée comme chaque samedi par Nicolas Baudin, et que vous retrouvez en podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Pour le reste, on se retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro. Europe 1.